France Inter. .fr. Bonjour, le professeur Friedman, l'un des grands spécialistes de la grossesse et de la procréation, est l'invité cet après-midi de Vous avez dit classique. Gynécologue obstétricien, il est le père, on peut le dire, de milliers d'enfants qui auraient pu ne pas naître, car celui qu'on appelle aussi l'irrésistible Monsieur Bébé consacre depuis les années 70 son activité professionnelle à la maternité. À l'origine du premier bébé éprouvette, il aide les personnes à faire des enfants. Embryons congelés, maturation in vitro, bébé médicaments, René Friedman est depuis toujours tourné vers la vie. Idéologue humaniste, il est aussi professeur émérite à l'université de Paris 5 et producteur de l'émission Révolution médicale tous les mardis de 16h à 17h sur France Culture. Mais qu'écoute donc ce fou de bébé et de vie? Bonjour René Friedman.
Bonjour.
Vous écoutez beaucoup de musique?
Oui. Objectivement, oui. J'écoute la musique pour la musique et puis j'ai besoin quasiment d'un fond musical en permanence.
Pourquoi? C'est...
Je sais pas. C'est vraiment... par exemple, je dis souvent, moi j'ai vraiment opéré en musique. Quand j'étais chef de service à la maternité de Clamart, j'ai fait installer des haut-parleurs
des
dans chaque...
Des enceintes,
oui. Oui, des enceintes dans chaque salle de naissance.
Pour les patients ou pour vous, pour les deux?
Pour les deux. Enfin, pour moi, c'était surtout de voir les couples appréciés, hein, bien sûr. Bien sûr, c'était pour les deux. Enfin, s'ils voulaient. Hein. Ils avaient la possibilité, parce qu'au début, on avait fait une erreur. C'était systématiquement diffusé dans tous les lieux. Et il y en a qui n'étaient pas disponibles à ce moment-là. Donc après, on a fait mettre un interrupteur pour que... C'était la même musique, mais qui était mise d'ailleurs par les sages-femmes un peu à la demande. Et puis, comme ça, les couples pouvaient écouter, ou soit ils pouvaient aussi amener leurs propres écouteurs. En tout cas, et même pour la procréation médicalement assistée, le transfert en musique douce, en musique classique, c'est génial, parce que ça détend les deux, le couple et le médecin. Et donc,
Vous avez vu un changement?
Vous voulez dire
quand vous avez installé les enceintes dans le rapport
En fait, oui. Enfin, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une ambiance comme ça, qui est une musique douce, une lumière tamisée, vous êtes plus proches les uns des autres et vous êtes plus concentrés sur ce que vous faites en tant que médecin et puis le couple est plus concentré sur le moment qu'il vit, qui est quand même toujours intense et dense. J'avais été éduqué à ce genre de choses par Jean-Michel Krivine, qui était un chirurgien d'ailleurs de la famille d'Emmanuel, mais lui il était chirurgien et lui il opérait beaucoup en musique comme ça à l'hôpital de Beaune, et ça m'est resté quoi, ce plaisir d'être en même temps dedans et dehors. Voilà, les mains au chaud et en même temps la tête dans les nuages.
Alors, au programme de Vous avez dit classique aujourd'hui, Mozart, Bellini, Satie, Chopin, Wagner. J'ai noté beaucoup de piano également.
Oui.
Je
ne
sais pas si vous l'avez fait exprès, c'est un instrument de
prédilection. Non, c'est peut-être un peu la période actuelle, parce que j'ai eu un moment très violon. Et puis maintenant c'est plutôt piano.
Alors on va nous commencer par le troisième mouvement de la symphonie Titan de Mahler, composé en 1888, très mal accueilli au départ. Il voulait l'appeler La vie d'un esselé, pour finalement la nommer Titan. Le troisième mouvement, vous savez, c'est une lente marche funèbre en ré mineur qui est bâtie sur la version allemande de la chanson Frère Jacques, Bruder Jacob, avec le rythme obstiné des timbales et des contrebasses. Alors commencer par une marche funèbre, ça va vous paraître étrange, et pourtant c'était en écho à votre naissance. Vous êtes né pendant la Seconde Guerre mondiale, un moment je crois assez difficile, puisque vos parents avaient choisi de vous mettre au monde, en tout cas de penser à votre naissance, parce qu'ils pensaient qu'ainsi ils seraient protégés d'une éventuelle déportation.
Oui, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, les femmes juive pensait que, étant enceinte, elle ne serait pas déportée. Enfin, je sais pas exactement, arrêtée en tous les cas déjà, on va dire, puis ensuite déportée. Oui. Et voilà. Alors, on doit à cette période noire, sombre, quelques naissances qui étaient parties sur cette idée-là, qui bien sûr s'est révélée totalement fausse. Mais voilà, ça a permis quand même peut-être quelques clartés dans la nuit noire.
D'où ce choix musical aussi qui est bien sûr une marche funèbre, mais plein de vie et plein d'envolées. C'est sous la direction de Leonard Bernstein, lui qui savait si bien mettre de la vie dans la musique. Et puis avec le Concertgebouw d'Amsterdam, histoire de rester dans cette Europe de malheur du début du XXe siècle. La symphonie numéro 1 en ré majeur, dite Titan de Gustav Mahler, avec ce troisième mouvement si connu sur le thème de Frère Jacques, et interprété par l'Orchestre Royal de Concertgebouw d'Amsterdam sous la direction de Leonard Bernstein. Un morceau, d'ailleurs une symphonie qui a été très mal accueillie par le public austro-hongrois. Les critiques disaient que ce poème symphonique était vulgaire et insensé. Quand on connaît le succès et l'entrain de cette marche funèbre, je voulais vous faire réagir là-dessus, René Friedman, c'est toujours étrange de se dire que sur le moment,
C'est souvent le cas, vous savez, dans nombreux domaines, on n'est pas apprécié forcément pour ce qu'on fait à ce moment-là, puis après ça vient. Voilà. Et Mahler a eu quand même beaucoup d'opposants. Hein. Il a lutté, je crois, à peu près toute sa vie pour imposer cette forme de musique qui était quand même novatrice et cette combinaison de tous ces instruments.
Ça a été votre cas, vous, en médecine, de devoir se battre?
Ah bah oui, ça continue d'ailleurs.
Oui, c'est vrai. Hein,
les idées sont dans ce domaine, vous savez bien, elles touchent les sociétés, elles touchent la société, elles remettent en question des problèmes éthiques, des problèmes de limites, et donc oui, c'est à chaque fois c'est une avancée, des avancées techniques et en même temps des avancées de réflexion pour savoir où est-ce qu'on met les limites, ouais.
Alors on va poursuivre avec un autre thème de mort, c'est certainement parce que vous êtes habité par la vie que vous aimez ce requiem de Mozart.
Mais c'est-à-dire que quand on écoute la mort, c'est qu'on va bien.
Ouais. Et ce requiem de Mozart, justement, composé sur la fin de la vie de Mozart, dans une sorte de tempête...
D'exaltation de quelqu'un qui se sentait quand même partir, et qui était malade, et qui était en train de lutter pour survivre tout en doutant, hein, je crois. Et je trouve que ça arrache le cœur, quoi, je veux dire... C'est un requiem, mais c'est vrai que j'aimais beaucoup les requiems parce que c'est calme, quoi, hein, que ce soit Campra, que ce soit enfin tous, quoi. Mais ça permet. Moi, j'écoutais beaucoup en travaillant, en lisant et en préparant les concours ou encore les articles. Et après, on rentre dedans. C'est une espèce de comment dire. C'est comme si on était dedans. Il y a une façon d'écouter la musique, soit de l'écouter vraiment, soit elle passe dans vous faites même plus attention que vous avez écouté la musique, mais elle est indispensable à votre carburant de vie, quoi.
Alors on va écouter le Confutatis, vous savez qui a été, on ne sait plus qui est le compositeur, ouais, est-ce que c'est Mozart ou ce fameux, peut-être Salieri, en tout cas celui qui a pris la relève de Mozart une fois qu'il était mort, dans une perfection d'imitation d'écriture. C'est ça aussi, peut-être, la médecine, c'est savoir reproduire des choses enseignées, les faire évoluer, mais rester dans un enseignement. Je pense à ce que vous avez apporté, enfin les innovations médicales, après il faut savoir les reproduire, les transmettre.
Ça, c'est le principe de toute la science et de la médecine, hein, c'est d'être suffisamment clair dans ses avancées pour qu'elles soient reproductibles. Si c'est pas reproductible, c'est pas la peine.
Thank you.
Le Requiem en Ré mineur de Wolfgang Amadeus Mozart par le Concertus Musicus de Vienne et le chœur Arnold Schönberg sous la direction de Nikolaus Arnoncourt avec ce mélange de force de vie et de moments calmes pour en référer à ce que vous disiez tout à l'heure, René Friedman.
Vous avez dit classique ? Elsa Boublil sur France Inter.
Un thème médical pour un opéra à suivre avec vous, René Friedman, puisqu'on va parler de somnambulisme. C'est vrai que ça passionnait complètement la société du 19e siècle, fin du 19e siècle, le somnambulisme. Alors Amina souffre de somnambulisme et c'est à cause de cette maladie qu'elle s'est retrouvée dans le lit de Rodolfo. Son promis Elvino ne veut pas la croire, bien sûr que c'est par somnambulisme, et s'apprête à épouser une autre femme jusqu'au jour où il s'aperçoit qu'elle est vraiment somnambule. Il la voit traverser dans son sommeil un cours d'eau sur un petit pont suspendu, donc ça va renverser la situation. Mais ça me permet de vous demander à vous pourquoi vous avez voulu être médecin, René Friedman.
Ah, grande question sur laquelle... Mais écoutez, en fait, je sais pas. C'est-à-dire que oui, parce que c'était. Je veux pas dire que c'était dans les gènes, parce que mais c'était comme ça. Ça se posait même pas. Ma mère voulait que je sois médecin et moi je voulais être médecin parce que ça me semblait quand même une position relationnelle. Mais je voyais pas la médecine sur le plan scientifique.
Hein. C'était
pas...
comprendre l'humain, c'est ça ?
Oui, c'était plutôt la relation humaine. J'avais un médecin de famille que j'aimais beaucoup et comme ça une espèce d'image. Et puis après, surtout quand j'étais adolescent, j'ai lu des livres d'André Soubiran, je dirais des Masques de chair de Maxence Van der Merch, des livres comme ça qui frappent, hein, surtout les adolescents. Et finalement, cette ambiance, d'être utile aussi. Hein, d'être... Alors après, je savais même pas que j'allais m'occuper autour de l'essence.
Parce que vous avez bifurqué, vous ne vous destinez
totalement
pas.
Bifurqué. Je voulais surtout pas faire l'obstétrique, ça me plaisait pas du tout. Jusqu'à ce que je vois un peu le chemin qu'il y avait à faire pour sortir de cette douleur imposée, de ces enfants trop prématurés, de ces femmes qui souffraient, et ces hommes qui souffraient de ne pas pouvoir concevoir. Et donc il y a eu un champ, et moi j'ai eu la chance quand même de voir, si vous voulez, dans ma carrière, les débuts de la péridurale, de la célioscopie, dans laquelle on opère maintenant à ventre fermé la plupart des choses, de la médecine anténatale, l'échographie commençait à peine, les amyosynthèses commençaient tout juste, et puis la fécondation in vitro, n'en parlons pas. Donc voilà, j'étais porté par une série d'innovations qui cherchait à améliorer le bien-être.
L'avortement n'existait même pas quand vous avez commencé.
Non, la contraception venait à peine d'être imposée et l'avortement n'était pas autorisé. Il était pratiqué de façon clandestine avec des conséquences absolument dramatiques. Et j'ai vu mourir des jeunes filles, des jeunes femmes de septicémie. Et je me suis dit, effectivement, on ne peut pas laisser ça comme ça.
Alors on va écouter cette somnambule de Bellini pour rester dans ce registre médical avec ce passage de l'acte 2, l'air d'Amina, où elle dit « non crede a mirarti », le moment où, comme il a constaté qu'elle était dans le lit donc de cette autre personne, son futur époux décide de la quitter. Je vous le propose interprété par Cecilia Bartoli, qui a une façon très grave de le prendre.
Thank you.
La sonnambula a non crede al mirarti, l'acte 2. Cet air d'Amina interprété par Cecilia Bartoli et c'est l'orchestre La Scintilla sous la direction d'Adam Fischer. C'est Cecilia Bartoli, vous aviez l'air content.
Ah, on est bah Friedman. Oui, j'ai un certain nombre de disques d'elle. Elle fait partie des grandes voix actuelles. Vraiment avec une sensibilité assez forte. Je ne sais pas si vous connaissez Persona non grata, je dirais. Voilà, c'est merveilleux. Quoi.
Dans le choix prochain, c'est donc le concerto numéro 2 en ut mineur de Rachmaninoff, le fameux composé à la suite d'une grande dépression, parce qu'il avait rencontré finalement assez peu de succès avec sa première symphonie, Rachmaninoff. Donc il traverse une grande dépression et puis il compose ce concerto qui deviendra l'un des majeurs de l'histoire, même du piano, et qui raconte vraiment les tourments qu'il traverse. René Friedman, c'était une urgence d'être dans la vie à tout prix, pour vous ?
Ah oui, complètement. Complètement, parce que, je veux dire, voilà, ça donne un sens, quoi. Je veux dire, total, complet, immédiat, prolongé, variable, varié.
On parlait de cette enfance pendant la guerre, être née, donc cachée. Vos parents ont réussi à rester cachés.
Ils ont réussi, ils ont surtout été aidés par une famille qui les a bien protégés, et nous aussi, les enfants, qui ont d'ailleurs été reconnus comme justes auprès des nations, et avec qui une famille qui continue, comme beaucoup de familles, et donc quatrième génération, les enfants se connaissent, et nous nous voyons toujours au moins une fois par an.
Est-ce que vous faites un lien entre votre choix de vie en tant que gynécologue obstétricien et cette vie qui commence in utero?
Sûrement, c'est que, si vous voulez, d'être au début, je veux dire, de la vie, c'est quand même... Il faut bien se rendre compte que jusqu'à là, le début de la vie était invisible. Et il est devenu, je dirais, visible au microscope. Il était intouchable. Il est devenu même manipulable, posant un certain nombre de problèmes éthiques, d'ailleurs. Donc, d'être comme ça au commencement des choses, c'est vrai que d'être témoin, passager, c'est quelque chose qui est... Enfin, voilà, je m'en lasse pas et je suis accro de ce début des choses.
Et ce concerto numéro 2 en ut mineur, ça représente quoi pour vous ?
C'est une sensibilité, je dirais, ressentie depuis l'adolescence, je crois. Hein, je dirais, parce qu'il a été repris dans un certain nombre de films. Je crois que la première fois que je l'ai écouté, c'était dans un film qui s'appelait « Quand tu seras grand, mon fils ». Alors avec ça...
Thank you.
Le moderato du concerto numéro 2 en ut mineur de Rachmaninov, interprété par Hélène Grimaud. Hélène Grimaud qui était toute jeune à l'époque et qui tapait presque le clavier dans une énergie folle. René Friedman, et c'était pour aussi faire référence à votre côté un peu féministe avant l'heure, on va pouvoir en parler dans quelques instants.
France Inter. Vous avez dit classique. Elsa Boublil.
Féministe avant l'heure, oui, parce que très tôt, très jeune, René Friedman, vous vous êtes sentie concernée par le destin des femmes. On parlait tout à l'heure de cet engagement vis-à-vis de l'avortement. Je crois que vous avez signé le manifeste des 343 salopes.
Enfin non, ça c'était les femmes qui le faisaient. Ouais. Les médecins, par ailleurs, ont fait un autre manifeste, une centaine, 200 médecins, ou je ne sais plus combien, pour dire que oui, ils soutenaient qu'ils avaient fait aussi des avortements quand les femmes le demandaient. Mais oui, bah, c'est pas facile de voir mourir une jeune femme de 20 ans de septicémie simplement parce que elle pouvait pas être prise en charge, c'était interdit sur le plan médical et qu'elle utilisait des méthodes artisanales redoutables. Donc oui, c'était une mobilisation, je dirais, même si on peut regretter d'en être parfois à faire ce geste, mais c'est surtout les femmes qui regrettent mais qui n'ont pas d'autre solution, et on reste toujours, malgré la contraception, malgré les progrès de la contragestion, c'est la possibilité d'avoir des hormones qui bloquent tout de suite après les rapports sexuels qui seraient fécondants, quand même un taux d'avortement médicaux, donc en France, qui reste élevé.
Et ce qui me plaît aussi dans votre démarche, René Friedman, c'est qu'évidemment, vous êtes concerné par les femmes, parce que ce sont les femmes qui portent les enfants, mais on sent bien que c'est un combat de longue date que vous menez, en fait, pour les hommes et les femmes. C'est pour ça que dans le chapeau, je parlais bien des personnes.
Oui, vous avez raison, parce que si vous voulez, c'est vrai qu'on est parti, parce que c'est les femmes qui portent les enfants, bien entendu, mais et puis aussi qui ont le rôle d'ailleurs principal, il faut bien le reconnaître, dans la conception sur le plan biologique, parce que c'est dans l'œuf de la femme que réside toute la réserve qui va faire qu'il va s'implanter ou pas. Mais l'homme est important, bien entendu, sur le plan chromosomique, et puis sa participation, mais on va voir que ce n'est qu'au fil des années qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des stérilités masculines, que ce que jusque-là, beaucoup d'hommes d'ailleurs niaient, changeaient de femme plutôt que de prendre un traitement à ce moment-là, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être des solutions, et il y en a, des solutions à proposer pour les hommes qui portent aussi une part de l'infertilité du couple, bien entendu.
Alors on va poursuivre avec une musique avant-gardiste qui fait que d'ailleurs ce compositeur lui aussi n'était pas reconnu de son temps, même décrié par les critiques qui considéraient qu'Eric Satie était vraiment un non-compositeur, lui qui avait décidé de mettre des annotations très précises sur ses partitions, pas de barre de mesure, des suggestions littéraires pour donner une inspiration. C'est ce côté justement très très évanescent qui
oui,
vous intéresse.
C'est vrai que c'est une musique très évaporée, hein, je veux dire comme ça, note après notes qui se succèdent. Voilà, c'est une signature très particulière et d'une douceur extrême, parce que justement, c'est très dépouillé, c'est très sur l'essentiel quoi, de la note musicale.
C'est ce que vous pourriez mettre, par exemple, dans vos salles
Ce que j'ai fait, ce qu'on l'a mis effectivement dans les salles d'attente ou bien dans les moments clés, comme les transferts d'embryons, voire les naissances.
Voici la gnossienne numéro 1, interprétée par celui qui a réhabilité Eric Satie. Il s'agit de Aldo Ciccolini.
Thank you.
La Gnossienne numéro 1, L'An, interprété par Aldo Ciccolini. C'était donc Eric Satie. René Friedman, vous êtes, je disais en introduction que vous étiez un idéologue humaniste, mais au fond, vous êtes un idéaliste, tout court.
Ben, écoutez, oui, je ressens en tous les cas que ce qui fait le sel de la vie, c'est justement d'abord de la changer, de la faire évoluer, et puis de regarder ce qui se passe autour de soi et de voir que il y a des gens qui ont des besoins et comment on peut aider les autres, s'aider soi-même. Il ne s'agit pas de sacrifier l'un à l'autre, mais il s'agit de marcher tous ensemble, et puis que la vie c'est super. D'ailleurs, il suffit d'écouter votre émission et la musique qu'il y a dedans pour vibrer. Donc après il faut réfléchir. On peut pas vivre comme ça. Faut réfléchir au grand thème et de l'évolution de l'humanité. Et c'est peut-être dans ce sens-là que vous utilisez le mot idéaliste, c'est de croire qu'il y a un progrès, de croire qu'il y a un meilleur. Et c'est vrai que moi je crois au progrès dans l'humanité, même si c'est chaotique, même si c'est des fois on se retourne, on se dit c'est pas possible. C'est ce qui se passe autour de nous, et en même temps, c'est quand même des îlots qui s'agrandissent d'égalité, de fraternité et de liberté.
Mais est-ce qu'on peut craindre un recul de ces avancées, ces fameuses avancées qu'on évoquait tout à l'heure?
Non, mais il faut craindre un recul de tout, parce que d'abord on a bien vu la barbarie s'installe, là on s'y attend pas, à des moments où on s'y attend pas, sur des formes où on s'y attend pas, donc il faut rester vigilant. Mais la vigilance nous amène peut-être à un sentiment qui est de plus en plus partagé, qu'on pourrait appeler l'intranquillité. C'est une espèce de vibration, on n'est plus sûr tout à fait des choses, on est dans l'intranquillité. D'ailleurs, on fera un colloque à la fin de l'année, j'organiserai un colloque sur ce thème, qui je crois est vraiment très très d'actualité. Ça n'empêche pas de ressentir et de vibrer, mais il y a toujours aussi une espèce d'alerte. On doit être aussi en intérieur des lanceurs d'alerte.
C'est pour ça que vous aimez Wagner, alors?
Alors Wagner, oui. Alors l'utilisation qu'on a faite de Wagner, c'est une chose. Wagner, quand
c'est
on
un
écoute,
grand romantique en tout cas.
Un grand romantique et puis un fou, quoi.
Ouais.
C'est un fou dans la création, fou dans le mélange des gens, fou dans l'histoire. Cette histoire est totalement folle. Enfin, je veux dire, le Ring, c'est totalement fou.
Cette
tétralogie, mais c'est quand même sur le plan musical, avec des moments mais d'une intense douceur, d'une intense force, et en tous les cas d'une créativité époustouflante, quoi.
On va écouter l'air de Sigmund interprété par Jonas Kaufmann, je crois que vous aimez beaucoup.
Bah oui, qui n'aime pas aujourd'hui Jonas Kaufmann? Moi, ça fait longtemps, et je trouve qu'il a spécialement, moi je le trouve en ténor dans Wagner, vraiment, vraiment irremplaçable. Dans les autres, dans les Italiens et tout ça, ça voilà.
Un peu trop bel canto peut-être.
Mais là, il est vraiment, il est en même temps une dans la voix. Je ne sais pas si le morceau va nous le permettre de le voir, mais il a une voix, il a une douceur et une force combinées qui est quand même rarissime.
Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais il écoutait son grand-père interpréter Wagner au piano lorsqu'il était petit et ne pensait jamais pouvoir un jour interpréter Wagner. Alors peut-être que c'est depuis l'enfance d'avoir entendu ses airs jouer et interpréter qui lui ont permis d'avoir cette vérité que vous évoquiez à l'instant.
Thank you. دلدار من، دلدار من، در آدر آدر کار من، در کار من، توی توی گلزار من، گلزار من، بگو بگو اسرار من، اسرار من. بیا بیا درویش من، درویش من، برو برو از پیش من، از پیش من، توی توی همکیش من، همکیش من، توی توی همخیش من، همخیش من.
C'est Alireza Gorbani, extrait de son album Éperdument. Éperdument parce que ce sont des chants d'amour persans pour vous, professeur Friedman, parce que apparemment ça vous plaît beaucoup la musique traditionnelle persane, iranienne.
Oui, enfin, c'est-à-dire, d'abord, c'était un clin d'œil aussi à toutes les musiques hein, que j'adore, que ce soit d'Amérique latine, je veux dire, d'Afrique.
Musique classique du monde, quoi.
Voilà, on va dire, c'est une espèce de sensibilité à toutes les formes, la plupart des formes de musique, y compris celle du Moyen-Orient, je dirais que ce soit Mkassoun, Farid El-Atrache, etc. Et c'est vrai que là, récemment, j'ai eu l'occasion d'être invité pour une conférence en Iran. Et j'ai eu l'occasion d'écouter ces chants qui malheureusement, comme vous le savez, ne sont interprétés que par des hommes, ce qui est bien dommage depuis la prise de pouvoir en question, mais qui restent quand même des musiques extrêmement douces, extrêmement gutturales, extrêmement rythmées. Et voilà, j'ai des souvenirs comme ça de routes de nuit en allant dans le désert iranien dans des bus où le chauffeur mettait cette musique un peu mystique, hein, faut le dire. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'endroits, j'ai découvert justement que d'abord il y a toute une poésie bien sûr, Perse est un grand pays avec des traditions et avec des musiques qui sont permanentes, y compris dans les lieux publics. Je dirais, une musique comme celle-là, qui sont des recueillements et qui accompagnent tout le monde.
Alors, j'en profite, voilà, je voulais vous faire découvrir ce chanteur quarantenaire qui s'appelle Alireza Gorbani et qui est passé par les cantilations du Coran et qui est devenu vraiment un savant du radif, hein, qui est cette musique de la nouvelle génération. Et vous parlez de ce film qui est encore à l'affiche et je vous invite à aller le voir, qui s'appelle No Land Song, qui raconte l'histoire de Sarah Najafi, qui est une jeune compositrice qui va tenter de défier les autorités iraniennes et organiser un concert avec des femmes, Emel Matlouti par exemple, la chanteuse tunisienne, elle, et puis deux chanteuses françaises, Jeanne Chéral et également Élise Caron, qui essaieront de venir chanter là-bas en Iran, puisque vous le savez, depuis la révolution, vous le disiez, de 1979, les femmes n'ont plus le droit de chanter. C'est un film documentaire absolument passionnant, qui est encore à l'affiche, et c'est un peu un miracle, donc profitez-en, allez le voir, je pense que vous qui revenez d'Iran, ça devrait vous intéresser, ainsi que les auditeurs, bien sûr. Et pour finir, comme vous aimez Chopin et le piano, je voulais finir avec le concerto numéro 1 pour piano de Frédéric Chopin, interprété par le grand pianiste Grigory Sokolov. Je ne sais pas si vous l'appréciez. En tout cas, très grand interprète de la musique de Chopin dans son dernier mouvement que voici. Thank you. Concerto en mi mineur de Frédéric Chopin dans son troisième mouvement interprété par Grégory Sokolov. Et c'est le Münchner Philharmoniker sous la direction de Witold Rowitzki. Un disque qui vient de reparaître chez Sony Music puisque c'est un enregistrement de la fin des années 90. René Friedman, un grand merci à vous d'être venu passer cette heure en notre compagnie.
Une heure rapide, qui passait trop rapidement.
Bah, c'est, tant mieux, merci. Je voulais rappeler aux auditeurs que vous avez, il y a une nouvelle édition de ce 9 mois à tendre bébé que vous avez coécrit avec Christine Schilt. Hein, c'est un guide
oui, c'est
compagnon
un,
de
c'est
grossesse.
Un livre qui est remis à jour chaque année pour être d'actualité et accompagner les mamans et les couples. Hein.
Très utile, apparemment. Je regrette de ne pas l'avoir lu avant. Et on peut vous retrouver sur France Culture de 16h à 17h le mardi en direct. Bon, bah, après, les auditeurs feront leur choix. En tout cas, un grand merci à vous et puis à très bientôt.
À très bientôt.
L'émission, vous pouvez la réécouter sur franceinter.fr ou la podcaster, bien sûr. Nous laissez vos commentaires. Sinon, merci à Marie-Annick Rimbaud, Camille Poux-Jalagui, Claire Destacan, Elsa Rampazzo. À la technique aujourd'hui, c'était Arnaud Caillé. Et demain, nous recevrons l'excellent saxophoniste de jazz, chanteur fou, Thomas de Pourquerie. Bonjour Charline Van Hoenacker.
Eh hey, bonjour Elsa.
Comment
bien,
ça va?
Bien ou bien?
Bien.
Bien.
Et vous,
bon,
bien?
Moi aussi, je rêverais qu'un invité me dise ça passe beaucoup trop vite cette heure. Je vais demander à Thierry Ancis.
Écoutez, prenez cours avec moi, je vous donne des cours tout à l'heure.
Je vais demander à Thierry Ancis de la Comédie Française de me dire ça à la fin de l'émission, avec
d'accord.
Sa belle voix.
Ok, j'écoute. Hein. Allez, à tout à l'heure.
Ciao. Tout à l'heure.